on va essayer de regarder comment finalement l'analyse de l'activité peut apporter un intérêt, un double intérêt en fait, du côté des entrants dans le métier, et donc créer là aussi une réflexion et éventuellement des ressources sur cette entrée dans le métier, et réfléchir en termes de contenu de formation, en termes de dispositifs de formation sur l'autoconfrontation et plus largement, je dirais, sur le dispositif d'intervention en recherche tel qu'on l'a initié dans le groupe à Marseille, pour permettre, je dirais, d'assainir un peu des situations professionnelles en proposant, par exemple, des moyens qui permettraient de donner du répondant professionnel et d'accroître du pouvoir d'action. Je crois que c'est un petit peu ce qu'on a dit, que vous avez dit pendant ces deux jours. Alors, ça me paraît d'autant plus important, cette réflexion qui va se faire, bien sûr, autour à la fois des entrants dans le métier et des contenus de formation, que finalement, il me semble qu'il y a une idée qui est largement répandue et selon laquelle il semblerait que, pour être efficace, l'apprentissage des élèves doit se passer en quasi-totalité devant les yeux de l'enseignant. Alors cette idée-là, on la retrouve dans les derniers textes officiels, bien sûr, la loi 2005, mais tous les BO qui concernent le socle commun, etc. Donc cette idée que tout doit se passer devant les yeux du maître, ce qui va d'une certaine manière, je dirais, lui mettre un peu la pression, puisque ça suppose qu'il mette en œuvre un milieu qui va organiser les conditions de travail de ses élèves et qui en plus soit un milieu qui non seulement réunisse à lui tout seul les capacités d'étudier les savoirs en jeu, mais qui permette à tous les élèves de réussir. Donc, c'est un enjeu effectivement très fort, de taille, et en plus ça ne marche pas toujours. Alors, un enjeu de taille, pourquoi ? Parce que justement, il y a cette pression sociale qui est... Si effectivement on s'éloigne petit à petit d'une vision très pédocentriste, il reste quand même cette idée des savoirs disciplinaires. Les réponses qui sont données aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, pour aider à enseigner dans des milieux difficiles, une des réponses, ça serait de consolider la formation des enseignants sur les savoirs disciplinaires, comme si cette seule formation pouvait pallier toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Donc là, il y a vraiment une pression, je dirais, à la fois sociale. Il suffit de lire la lettre de Sarkozy, la lettre aux éducateurs, pour voir combien ce recentrage sur la maîtrise des savoirs disciplinaires semble être la réponse aux difficultés. Donc là, il y a une pression sociale très forte. Il y a bien sûr une pression institutionnelle de par les IUFM, puisque là aussi, il y a un recentrage aussi assez important sur ces questions disciplinaires. Et puis, je dirais, une pression locale des établissements, des collègues, des parents, toutes ces prescriptions dont vous avez probablement parlé depuis ces deux jours. Alors les inspecteurs, je ne sais pas, puisqu'a priori notre ministre avait l'air de dire qu'il y aurait une modification des évaluations des enseignants, et du coup, ça va modifier aussi cette prescription-là. Voilà, donc un enjeu de taille à construire un milieu pour l'étude et l'organisation des conditions de travail qui est très présente chez les enseignants. Et je vous dis, en plus, ça ne marche pas. Pourquoi ? Mais parce que on l'a vu chez les enseignants débutants et particulièrement les enseignants débutants en milieu difficile, mais pas que. Il arrive très souvent que justement l'élaboration et la construction de ce milieu de travail soit laissée à l'initiative des élèves. Bon, pour X raisons, parce que l'enseignant se trompe d'objet, parce qu'il n'arrive justement pas à apprendre à la classe et du coup il n'arrive pas à faire classe. Ou au contraire, il va avoir, je dirais, une posture et une position très ferme et très rigide. Il va organiser le milieu à un point tel qu'il ne laisse pas de transactions didactiques possibles. Et du coup, ça a des effets contraires à ce qu'il souhaitait, voire contre-productifs, complètement. Ou on est dans une situation aussi beaucoup plus favorable, où il y a une espèce de co-construction, de co-analyse entre l'enseignant et les élèves sur les enjeux de savoir et de comment ils doivent se travailler. Mais pour autant, on va le voir, les enseignants ne sont pas complètement satisfaits parce que ils ont le sentiment de ne pas avoir réussi à aller jusqu'où ils voulaient. Ils auraient voulu traiter une question de cette manière-là et puis ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce que ça a sonné avant. Donc, donc effectivement, cet enjeu-là, il est d'autant plus violent et important qu'il y a des situations qui montrent que ça ne marche pas tout le temps. Alors, ces scénarii-là que je développe très rapidement devant vous voyez bien qu'ils n'ont absolument rien d'insolite ni d'improbable, et qu'en revanche, ils soulèvent un certain nombre de questions. Une des premières questions, ça serait de se dire, finalement, comment les enseignants s'y prennent-ils pour organiser la réussite de tous leurs élèves, hein, et de quels moyens ils disposent surtout pour organiser ce milieu, faire en sorte de prendre en compte, bien entendu, toute la formation épistémologique de leurs élèves, mais en tenant compte aussi de la difficulté de chacun. Alors, bien sûr, vous savez que dans les collèges d'ambition réussite, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont mis en œuvre et qui sont supposés aussi venir pallier les manques. Mais du coup, on ne sait pas trop si ces dispositifs, ils sont là comme correction de quelque chose qui devrait mieux se passer en classe. Hein, voilà, donc là, il y a vraiment une histoire, je dirais, qui va associer chez ces enseignants à la fois des comme disait Fred là tout à l'heure, des raisons d'agir, hein, qu'est-ce qui motive les enseignants à agir comme cela, des raisons d'agir et les moyens d'agir. Quels sont les moyens dont ils disposent ou qu'ils voudraient disposer ou qu'ils pensent avoir à disposition. Bon, donc c'est un peu dans ce cadre-là que l'on se situe et... Bon, ben, on voit bien que cette question, évidemment, elle dépasse largement le cadre des enseignants débutants, qu'elle touche véritablement à la question de la formation, y compris des profs expérimentés. Et donc, par rapport à cette question de formation, nous, dans l'équipe, là, on fait une hypothèse forte, hein, l'hypothèse forte qui est l'hypothèse qui s'appuie sur le cadre méthodologique qu'on s'est fixé. Alors, qui part sur des résultats, bon, je les reprends rapidement parce que j'ai bien compris que vous en aviez beaucoup parlé. L'idée, un, que finalement, la proposition d'un milieu pour l'étude qui est faite par les enseignants, hein, et surtout la proposition de ce milieu et de sa co-analyse avec les élèves, de notre point de vue, elle traduit une forte professionnalité enseignante. C'est-à-dire que c'est là que va se jouer une grande part de la professionnalité enseignante que d'organiser, de proposer ce milieu et de le co-analyser, le co-construire avec les élèves. Pour autant, on a bien vu là, et puis maintenant on sait bien au niveau des travaux que l'on conduit, on se rend bien compte que cette dimension, bien que complètement constitutive de l'activité enseignante, hein, elle est faiblement mobilisée, mise en œuvre par les enseignants novices, trop occupés qu'ils sont, comme dit Fred, à surcompenser des phénomènes anxiogènes, hein, qui émergent de la prise en main de la classe. Et du coup, ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est d'imaginer que face à ces obstacles qu'ils rencontrent et les situations difficiles qu'ils sont amenés à vivre, finalement ils produisent des ressources. Et ces ressources, je dirais qu'elles sont intermédiaires, c'est en tous les cas comme ça que j'ai entendu qu'on les appelait ce matin, des ressources intermédiaires, mais surtout elles sont provisoires. Elles sont provisoires et c'est ça qui nous intéresse. Et je crois que là, il y a une partie importante, hein, de notre manière de concevoir la formation et le métier, c'est-à-dire qu'elles sont provisoires et qu'elles sont donc amenées à se transformer. Alors, notre hypothèse forte, elle est là, hein, c'est-à-dire que nous pensons que le processus d'intervention recherche et au travers, hein, on va voir l'autoconfrontation, hein, en fait permet un développement et des apprentissages professionnels. Et plus exactement, par le cadre méthodologique de l'autoconfrontation, on peut amener en travaillant avec les enseignants ou les personnels de l'éducation, hein, à transformer justement ces ressources intermédiaires, ou pour le dire autrement, de transformer des préoccupations en occupations qui sont plus efficaces, hein, et qui sont plus efficaces doublement, bien sûr pour du point de vue du travail des élèves, mais également du point de vue d'une espèce de sérénité. Hein, de l'enseignant au travail, bon, dont on ne dissocie pas les deux. Alors, avant de vous montrer, avant de vous montrer en fait le un petit peu, on a essayé de modéliser cette intervention. Hein, je voudrais vous dire quelques éléments, quelques points. Premièrement, vous voyez bien, je parle de chercheur là, et pas de formateur, hein, mais dans ce processus d'intervention recherche, le chercheur a un statut particulier, c'est celui d'intervenant. Et il a pour ambition d'agir sur les situations de travail. Donc là, j'ai mis une citation de Curie, pour qu'elle permette à l'homme de croître. Donc en fait, ce chercheur est un intervenant qui agit sur des situations de travail et qui agit dans le sens de, en vue de les transformer. Donc si on reprend un petit peu ce que dit Schwartz, l'idée c'est que en fait l'intervenant, il est dans l'aventure au milieu des acteurs. Parce que l'idée que l'on va prendre de l'intervention, c'est un intervenant qui est au milieu des autres, hein, qui est là où il se passe quelque chose pour que quelque chose se passe. Hein, c'est un peu ça l'idée. Et bon, j'aime bien échanger sur la proposition de Schwartz que je trouve très intéressante. Il dit « Intervenir, c'est se mêler de la vie des autres, donc se mêler de la vie des autres, se mêler à la vie des autres, les rencontrer dans leur activité, leur savoir et leur valeur pour produire de la ressource, développer, faire évoluer, transformer leur vie et sans doute aussi la nôtre. » Alors évidemment, on sent bien là que de ce point de vue, il y a bien sûr toutes les dimensions objectives, mais également toutes les dimensions subjectives, mais il y a aussi une action qui est complètement située et dirigée. Hein. Situé et dirigé, mais pas simplement. Le point de départ, c'est toujours, une faille, une difficulté, ou pour le dire autrement, une activité conflictuelle. Hein, on va voir comment, c'est toujours le point de départ de nos interventions dans les établissements scolaires. Une activité conflictuelle où on va tenter de solliciter une dimension à la fois instrumentale et langagière. Et là, ce qui est important, c'est que le langage, je crois que bon, on aura à échanger là-dessus aussi, hein, le langage ici n'est pas simplement un outil qui va permettre de verbaliser ce qu'on est en train de faire. Mais il est vraiment, je dirais, une activité sur l'activité de travail. C'est-à-dire que là, on va créer un milieu sur le milieu de travail, un milieu extraordinaire sur le milieu ordinaire de travail. Hein. Et si l'intervenant a un statut, les personnes avec lesquelles on travaille, les enseignants hein, de collège ou de primaire avec lesquels on travaille, ont eux aussi un statut. Et ce statut, c'est qu'ils passent d'un statut d'observer, qui est un peu le statut, je dirais, traditionnel des recherches habituelles, hein, où on va sur le terrain pour aller recueillir des données. Hein. Là, ils passent vraiment d'un statut d'observer à un statut d'observateur. L'observateur de leur propre pratique et de leur propre expérience. Ce qui change là aussi considérablement les choses. Alors, un petit souci là. Alors, bon, c'est très... Bon, on a essayé de modéliser un petit peu notre intervention. On n'est pas très satisfait de ça. C'est assez incomplet, mais disons qu'il y a en interaction hein, trois grands volets. Hein, le cadre méthodologique de l'interconfrontation, mais qui se comprend aussi avec l'idée de la constitution d'un corpus et d'un travail collectif. Donc, rapidement... Tu l'as développé, ça, Fred, ou... Non. Oui, oui. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On part là sur l'activité conflictuelle. C'est-à-dire que ici... Il y a vraiment tout un travail hein, qui se fait à partir de la demande. Alors la demande des établissements scolaires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jacques, elle est toujours un peu, je dirais, normalisée par les textes de proposition du PAF. Hein. Par exemple, on intervient sur la question de la gestion de l'hétérogénéité. Et au fur et à mesure qu'on travaille avec les collègues et qu'on vient s'installer dans l'établissement avec eux, on se rend compte que derrière cette grande question générique, par exemple, de la gestion de l'hétérogénéité, il y a des questions de métier qui sont retravaillées et qui demandent à être retravaillées. Donc il y a une demande là, analyse de cette demande, reformulation et constitution d'un collectif. Donc finalement, il y a un premier temps qui est assez long, qui est un temps où on va constituer un collectif de travail avec les collègues qui décident de travailler avec nous. Bien. Ensuite, bon, ce dont on a parlé, c'est-à-dire que dans ce cadre de l'autoconfrontation, on passe de la manière suivante, hein, film de la classe, autoconfrontation simple, je redétaille pas puisque ça a été dit, autoconfrontation croisée, et là, choix de séquence qui va se faire vraiment en co-analyse avec le chercheur intervenant et l'enseignant, ou les deux enseignants, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Enfin, autre point qui paraît... Voilà. Voilà, donc ça se situe ici, c'est-à-dire que ce choix de séquence-là, choix de séquence à la fois du film et des deux types d'autoconfrontation, choix de séquence avec les protagonistes, les acteurs, hein, va être remis au travail ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une remise en chantier dans le retour au collectif. Hein. Donc on a travaillé, vous l'avez vu tout à l'heure, avec Guillemette et Frédéric. Et ensuite, on va remettre en chantier les questions qui auront été abordées entre Frédéric et Guillemette dans le collectif élargi de l'équipe qui a décidé de travailler avec nous, où là, on va remettre justement en question des points problématiques et ouvrir sur des possibilités. Donc... l'hypothèse forte dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-ci, c'est que nous faisons l'hypothèse ou le pari que ce processus d'intervention tel que je viens de vous le décrire très brièvement, de par l'alternance qu'il propose entre des activités de formation, et dont le processus est aussi d'intervention est aussi un élément de formation, hein. Donc une alternance entre des activités de formation et des expériences de classe produit du développement professionnel. Voilà. De quelle manière ? Eh bien, on a beaucoup, je crois, parlé de ce pouvoir d'agir, mais ce qu'on va essayer de regarder aussi, c'est comment, dans une certaine mesure, ce dispositif permet de réagir et comment ce pouvoir de réagir crée du développement qui, à son tour, va créer des apprentissages. Bon. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est en trois temps. C'est-à-dire développement du pouvoir de réagir par le dispositif, puis une espèce de conversion de ce développement de pouvoir de réagir en pouvoir d'agir, et puis des nouveaux apprentissages. Pour le dire autrement, je crois que c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pouvoir de réagir face à ce que Guillemette dit, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, non pardon, ce qu'elle fait, excusez-moi, ce qu'elle dit de ce qu'elle fait, donc son pouvoir de réagir, hein, ce qu'elle dit de ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait de ce qu'elle dit. Hein. Où là on suppose qu'il y a de nouveaux apprentissages. Hein. Bien. Donc là, une première séance, c'est un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc il s'agit de Guillemette, elle est titulaire première année au moment où on a fait ce film. Et donc là, dès qu'elle va être confrontée aux traces de son activité, elle va tenter de donner du sens, hein, sollicitée par le chercheur. Et dès les premières images, en fait, elle va faire le constat du bras de fer qu'elle est en train d'établir avec ses élèves. Un bras de fer dont elle le dit tout de suite, qui va la mener contre le mur, parce que il retarde d'autant plus le moment où elle va pouvoir asseoir son autorité et surtout mettre ses élèves au travail. Donc là, pour reprendre l'idée de l'hypothèse tout à l'heure, hein, c'est que ce dispositif, en fait, lui donne le moyen de s'exprimer, hein, sous l'impulsion du dialogue, de s'exprimer et d'exprimer une activité empêchée et de la... De par le fait qu'elle la revive en différé et par l'impulsion du dialogue, il va y avoir là le moyen d'exprimer cette activité empêchée. Donc on voit là quelques traces... Voilà, donc c'est ce que a conduit Fred. Donc elle a fait rentrer les élèves, elle les a fait sortir, elle les maintient debout en espérant, vous avez compris, hein, le silence absolu, elle n'arrive pas à les mettre au travail. Donc elle arrête là la vidéo, puisque la consigne c'est ça, on arrête la vidéo aussi bien le chercheur que l'enseignant. Et donc elle dit voilà. C'est ça qui est terrible avec cette classe, c'est que je les ai fait rentrer, puis ressortir et re-rentrer dans le calme. Et peut-être que c'est le son qui fait ça, mais c'est impossible d'avoir le brouhaha tout de suite, le calme tout de suite. Je suis obligée de dire calmez-vous, calmez-vous, on se calme. Eh ben non, ça recommence. Oui, là, il y a un joli lapsus, hein, évidemment. Donc, le chercheur. Et là, le parti que tu prends, c'est le rappel à la règle, demander le calme plutôt que de sanctionner éventuellement. Oui. Parce que c'est la difficulté que j'ai avec les sixièmes et que j'ai moins avec les troisièmes. C'est la sanction. Justement, comme si j'osais pas encore. Alors, je sais bien que quand on donne l'exemple très tôt, très vite, on a un cadre plus tôt, plus vite. Mais là, en plus, c'est difficile. Parce qu'ils font tous un peu du brouhaha. Donc, c'est difficile de prendre l'élève, surtout que j'ai remarqué qu'on est souvent attiré par les mêmes. Ce sont toujours les mêmes qui font du brouhaha, etc. Donc, pas envie d'entendre, c'est toujours moi. Et là, c'est impossible d'en choisir un et de sanctionner un élève. Donc du coup, le chercheur lui dit, ça te prive de cet outil-là, de cette arme-là, oui. Donc elle fait repartir le film et elle l'arrête. J'ai bien senti hier que j'étais dans une impasse. Et j'ai vu au moment où je m'énervais, que je marque-boutais sur mon principe, j'ai dit, non, je veux le silence complet. Je me suis dit, ça sert à rien, tu vas t'énerver, ça va être fichu. Donc, j'ai un peu laissé couler. Je me suis contentée de dire, dans 30 secondes, ils ont même pas capté. S'il y a un bruit de chaise, ça suffit maintenant, je commence le cours. Mais j'ai senti que c'était un bras de fer que j'allais perdre avec eux, obligé, obligatoirement. Alors là, il faut que je le dise fort pour que tout le monde entende. Je dis, bon, à partir de maintenant, ça suffit, je suis pas contente. Vous avez 3 secondes pour vous calmer. Le premier que je vois, il ramasse. Elle a dû entendre Béatrice. Et là, je prends le carnet en général parce qu'il y en a toujours un qui... Bon. C'est un gros problème que j'ai avec cette classe. Il n'y en a pas que un ou deux, il y en a 7 ou 8 et c'est récurrent. Et ça me... Mais j'ai réussi enfin à prendre quelques élèves à part et à la fin à mettre des mots dans le carnet parce que je me dis, j'ai fini par me rendre compte que chez eux, mon autorité n'était vraiment pas respectée. Parce qu'ils se permettaient de me répondre. Oui, c'est là que j'ai un problème. Alors elle a d'autant plus un problème qu'elle dit qu'elle sait que cette même classe et ces mêmes élèves avec d'autres collègues sont tout à fait clean, que ça pose aucun problème. Donc là, je me rends compte que c'est une erreur. Oui, alors juste une question. Tu fais malgré tout le choix de commencer à leur donner des consignes alors qu'il y a un vrai brouhaha. Là, je me rends compte que c'est une erreur. C'est une erreur. C'était pas délibéré au moment où tu l'as fait. C'était pas l'intention. Non, j'avais peut-être... Pensez, depuis l'autre bout de la classe, il n'y avait pas tant de bruit que ça. Et puis surtout, ça faisait 10 minutes. Et qu'il faut bien que je commence à un moment donné, mais là, non, c'est pas possible. Et je me rends compte que j'ai pas à les laisser debout comme ça. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y avait tant de bruit de chaises. Quand ils sont debout, ils font un pas sur l'autre. Un pas sur l'autre, donc j'ai peut-être intérêt à leur dire rapidement de s'asseoir. Donc de faire en sorte d'avoir un silence, peu importe qu'il soit absolu ou pas, mais assez vite pour que vite il s'assoie, que vite on démarre, parce qu'en fait je perds du temps à obtenir quelque chose que je n'arriverai pas à obtenir, et du coup ça contribue à... Bon, voilà. Donc j'ai pris... Alors, disons que là on va moins revenir sur les éléments qui émergent au début, c'est pour ça que j'ai pris un extrait un peu long, pour qu'on voit bien en fait les deux objets que l'on piste là. Le premier qui est celui vraiment des préoccupations d'un débutant, où vous voyez que pendant un très long moment, et si on regarde l'autoconfrontation simple, c'est quasiment la totalité de cette autoconfrontation qui porte sur justement des techniques de gestion de la classe et tout son problème d'autorité et des règles. Bon, ça c'est récurrent, on le voit bien, mais ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est cette idée que finalement ce dispositif, il offre un espace-temps qui va permettre de créer une activité sur l'activité de travail. Et c'est dans cette activité sur l'activité de travail qu'elle va pouvoir reconstruire ses actions dans d'autres perspectives. Alors comment ? Par exemple, elle dit, vous voyez, je l'avais marqué en gras, maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a tout ce bruit, et j'ai donc peut-être intérêt à les faire asseoir. Tant pis si je n'obtiens pas le silence auquel je m'étais un peu arc-boutée, mais j'ai quand même peut-être intérêt à les faire asseoir. Et on voit dans ce dispositif, bon là c'est un exemple sorti un peu rapidement, mais que progressivement ça lui permet de se rendre compte de choses qui lui avaient échappé au moment où elle est acteur, elle, acteur en classe. Et par ce biais de l'autoconfrontation et cette activité nouvelle qui est créée, là, elle a cette possibilité de revenir sur ce qui lui a échappé et éventuellement de construire un compromis qui pour elle est en tous les cas plus satisfaisant pour tenir avec cette classe. Ce matin, on parlait de comment on peut faire pour tenir. Là, il y a la possibilité d'envisager dans d'autres perspectives un moyen de travailler. Alors, bon, comment on va transformer ? Donc ça, c'est une espèce de pouvoir de réagir. Regardons ici ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'autoconfrontation croisée. Et comment on passe du pouvoir de réagir à un pouvoir d'agir potentiel. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, ce matin, elle dit « Alors moi, ce que je trouve intéressant dans mon cours, c'est que c'est l'archétype du cours qui commence mal. Parce que c'est trop. Cela demande une attention à ces gamins qui ne peuvent pas donner tout de suite. Il y a trop de moments de flottement au début. On n'est pas encore installé. Et c'est vrai que projeter un document, ce que Rodrigue m'avait conseillé, où il y a quelque chose à regarder, un support, quelque chose qui les accroche. Et là, je trouve que on peut pas commencer tous les cours avec un document d'accroche. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est cette mise en activité si longue. Car il faut rappeler le cours précédent, parce qu'il faut faire attention à vérifier le travail. Alors que tout ça, je pourrais le dire plus vite et d'une autre manière. c'est tellement long à mettre en place que tous ces gamins qui ont besoin de visualiser des supports. Tu vois, je m'interromps sans arrêt, je dois dire à cet élève de se mettre au travail. Et là, ça va mieux, mais la première fois que j'ai vu ça, j'étais horrifiée par ces images. Et ça, tu t'en es vraiment rendu compte en regardant à quel point c'était long, à quel point il y avait du brouhaha au début du cours, et c'est vrai que ça m'a vraiment aidée. Donc le film reprend, et là, elle dit « Quoi ? Je dicte encore ?» Fred qui lui dit « Avance, avance, ne te fais pas souffrir. » Oui, oui, c'est Frédéric, la collègue, hein. La collègue dans l'autoconfrontation simple. « Avance, avance, ne te fais pas souffrir. » Donc elle relance le film, elle l'arrête immédiatement, et elle dit « En fait, je comprends pourquoi ils sont silencieux. En fait, je ne l'avais pas vu comme ça la première fois. » Première fois en autoconfrontation simple. Hein. « En fait, je ne leur demande rien. » Alors, et dans le geste, elle dit « ils écrivent sans penser. » Elle fait repartir le film. Elle réarrête immédiatement et elle dit « Et du coup, je me rends compte après coup qu'ils étaient bien indulgents de continuer à m'écouter, relativement. » Parce qu'il y a quand même pas mal de brouhaha. Hein. Donc Fred la coupe là et elle dit « Alors là, moi c'est un truc, j'ai tellement la phobie du cours magistral que... » Parce que moi les cours d'histoire, j'ai jamais aimé. Parce que j'ai toujours eu des cours comme ça. C'est clair, elle lui dit, bon. Et j'avais un mal fou à essayer de rester concentré une heure. C'est une phobie que j'ai. Alors moi, j'ai le problème inverse. Tu vas voir tout à l'heure. C'est tellement, c'est la fête, on dialogue et machin qu'à la fin. Qu'à un moment, la trace écrite, on l'a fait au cours suivant. Parce que je me suis emballée, qu'il n'y a plus rien. Et du coup, j'ai rien dicté. Et puis la gestion du temps, moi, je merde complètement. Tu verras, la sortie de classe et le devoir, tout ça, c'est quelque chose. Après, c'est un problème inverse. Voilà. Donc... là, je crois que dans cette autoconfrontation, il y a plusieurs choses, hein, dans cette autoconfrontation croisée, il y a plusieurs points qu'on peut venir comme ça relever. Le premier, c'est que c'est l'occasion de revivre une expérience déjà vécue. Alors, une expérience déjà vécue dans la classe, mais une expérience déjà vécue dans l'autoconfrontation simple. Hein. Ça lui permet de redire ce qu'elle avait déjà dit dans l'autoconfrontation simple. Donc vous voyez tout de suite d'entrée de jeu, de manière très à l'aise, hein, elle va dire « Oui, je vois bien à quel point le démarrage de la leçon était long, il y a du brouhaha, etc. » Ce qu'il y a de nouveau dans cette autoconfrontation croisée, c'est que cette fois-ci, ce qu'elle n'avait pas fait la première fois, elle va dépasser le simple constat et elle va donner un système d'explication qui est le sien en tous les cas. Hein. Elle va tenter d'analyser les raisons de cette longueur. Et elle dit « Il y a trop de flottement, on n'est pas encore installé. » Les élèves ne sont pas au travail. Je m'interromps sans cesse. Il n'y a pas d'accroche. Donc ça, c'est le propre du travail en histoire. Hein. Il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas de support pour aider à problématiser. Et là, vous voyez bien que les raisons qu'elle donne sont à plusieurs niveaux. Ça peut aller des questions d'ordre et de participation des élèves, hein, pour reprendre le modèle de Durand, mais c'est aussi progressivement des questions qui viennent aussi toucher des questions de didactique et du travail des élèves. Donc, on voit progressivement une espèce de préoccupation qui est en train, progressivement, de se déplacer. Hein. Et puis, troisième point dans cette autoconfrontation, il y a l'occasion d'un nouvel étonnement qui lui avait complètement échappé à la première autoconfrontation quand elle dit « Quoi ? Je dicte encore. » Et en fait, je comprends pourquoi ils sont silencieux après coup. Donc là, il nous semble, dans l'hypothèse forte que nous avons, qu'il y a un rapport tout à fait véritable, manifeste, entre le développement qui est produit par l'étonnement et la façon dont ça ouvre vers des perspectives nouvelles, des apprentissages nouveaux. Quand elle dit, là, ce que je trouve intéressant, c'est ce cours qui démarre si mal, c'est cette mise en activité si longue, alors que tout ça, je pourrais le dire plus vite, est une autre manière. Alors, ici, on peut imaginer que l'on a, bon, bien sûr, avec quelques bribes là pour illustrer les propos, hein, on a ici quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir de redire et de réagir, hein, à son expérience, avec une espèce de conversion en pouvoir d'agir potentiel. Hein. Tout ça, je pourrais le dire plus vite d'une autre manière. Alors, la question, bien sûr, qui demeure là, c'est comment elle va aller vers certains apprentissages. Alors, ce pouvoir d'agir potentiel, dans l'expérience que nous faisons, il est renforcé par la troisième étape, vous rappelez, du modèle, qui est celle du retour au collectif. Alors, pourquoi et comment ? Dans ce retour au collectif, en fait, on va vous rappeler, on a sélectionné des passages de films et des passages d'autoconfrontation que l'on va remettre en chantier dans le collectif élargi. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que, en réalité, les enseignants sont confrontés aux images de Guillemette et de Frédéric, dans ce qu'elles font, mais également dans ce qu'elles disent qu'elles le font ou qu'elles ne font pas. Et là où Guillemette ne s'était pas reconnue, hein, notamment dans le « Quoi, je dis encore », là où elle ne s'était pas reconnue dans ce qu'elle faisait, on se rend compte que les enseignants qui sont là, qui assistent aux images de Guillemette, eux se reconnaissent dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas. Notamment toutes les difficultés à gérer le temps, à finir les cours, à éviter de continuer à donner des explications quand la cloche sonne. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui permet de remettre en discussion les questions qui ont été travaillées dans l'autoconfrontation. Et l'hypothèse que nous faisons aussi, c'est que ce retour au collectif en particulier a une fonction psychologique dans le sens où ce que Guillemette vivait sur le mode de la difficulté personnelle, hein, ce que dit Élodie, j'hésitais à penser que j'étais nulle, hein, c'est qu'elle vit sur le mode de la difficulté personnelle et quelque chose qui va être partagé par le collectif. Et du coup, ça va donner l'occasion encore à Guillemette de partager ses difficultés et bon, son inconfort professionnel.
Je me suis oui. Le collectif de travail, c'est des TR aussi?
Non.
C'est les professeurs chevronnés?
Ce sont les professeurs de l'établissement scolaire qui ont, par exemple, décidé de travailler avec nous. Non, pas simplement en histoire. Par exemple, là, sur le collège à Marseille, là où se déroule ce travail, il y a une quinzaine d'enseignants engagés avec nous, mais pas que des enseignants. Il y a aussi des CPE, il y a aussi le principal et le principal adjoint. Donc, ce collectif de travail, en réalité, il est à la fois constitué d'enseignants, de novices, mais d'enseignants chevronnés. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette fonction psychologique, elle est doublement assumée, parce que les questions que Guillemette pensait être des questions tout à fait personnelles sont des questions qui sont partagées par les collègues, mais aussi par des collègues chevronnés. Je pense notamment à Martine, une collègue de maths qui faisait un peu figure de modèle et de prof référent dans l'établissement. Et elle aussi, toutes ces questions de finir le cours, aller jusqu'au bout, faire ce qu'on avait prévu de faire, essayer d'avoir terminé proprement avant que cela sonne, ce sont des questions qui viennent travailler les questions de gestion d'hétérogénéité et qui sont des questions au cœur même du métier. Et là, dans ce travail, bon, je donnais ici un exemple sur justement la question du travail. Parce que ce qui préoccupe énormément Guillemette, c'est par exemple, je vous lis ce petit extrait, je crois qu'on en avait déjà parlé, hein, et là, c'est un extrait de l'autoconfrontation simple qu'on donne à voir dans le collectif. Donc, on lui dit, et là, au niveau du travail à maison, ils sont supposés faire quoi? Parce qu'évidemment, la cloche a sonné, elle tente de donner le travail. Hein. La moitié des élèves a plié ses affaires, certains sont même debout en train de quitter la classe. Et elle dit, bah, pas grand-chose, parce que je leur donne beaucoup moins de travail qu'au début de l'année. D'une part, parce que je m'épuisais à vérifier que le travail était fait, et il y a toujours des élèves qui ne font rien. Et d'autre part, parce que c'était tellement la galère, parce que si on leur donne du boulot, il faut vérifier qu'ils l'aient fait quand même. Si on vérifie pas, il y en a qui vont se décourager, qui vont dire à quoi ça sert et tout. Et puis ceux qui ne le font pas, il faut donner des exercices, des sanctions, des heures de colle. Je me suis rendu compte qu'avant, quand je donnais du travail, on passait l'heure à le corriger. Alors on corrigeait le travail toute l'heure. À la fin de l'heure, je redonnais du travail à faire à la maison. Puis après, en classe, on recorrigeait et tout le temps comme ça, j'avançais pas. Alors je n'en donne plus. Ça, par exemple, c'est quelque chose au moment du retour au collectif qui va, je dirais, occuper le collectif pendant au moins 2 bonnes heures où, en fait, les paroles, là, de Guillemette vont complètement être remises en chantier, en discussion dans le collectif et où, alors, tout à l'heure, Fred parlait de controverses. Là, il va y avoir, je dirais, émergence de discordance et de discordance entre ce que les raisons d'agir, toutes les raisons qui poussent les enseignants, par exemple, à donner du travail à la maison ou de ne pas en donner, hein, et les moyens qu'ils ont à leur disposition pour gérer cette question-là, par exemple. Alors, bon, j'ai noté ici en vrac des questions qui émergent. Est-ce une bonne chose de ne plus donner de travail à la maison ? Bon, c'est une question qui les a occupés pendant un long moment. Faut-il donner du travail ? Est-ce qu'on pourrait différencier ? Est-ce que, par exemple, on pourrait s'autoriser à donner du travail à certains élèves et pas à certains autres ? Par exemple, est-ce que ça, c'est une manière justement de gérer l'hétérogénéité ? Je vous rappelle que c'était cela même pour laquelle, la raison pour laquelle on était présent dans cet établissement depuis 2 ans. Hein, on est resté 2 années dans cet établissement. Donc là, il y a des questions qui, vous voyez, sous l'expérience vécue par Guillemette, qui remet en fait l'équipe et les enseignants au travail sur des questions qui sont au cœur de du métier.
Oui, et là, dans ce retour au collectif, là, je reviens un petit peu en arrière, il y a aussi la dimension de l'institution. Parce que dans cet établissement en particulier, le fait que soit présent par intermittence, mais malgré tout, le CPE, mais que soit présent également le principal ou le principal adjoint, ça donne aussi une autre dimension à la manière dont le métier va être discuté et sur les décisions sur lesquelles ils vont se mettre d'accord ou pas d'ailleurs. Parce que, bon, lorsque Fred parle de controverse, au sortir de ce retour au collectif, tous les collègues ne sont pas mis d'accord sur la question, par exemple, de l'évaluation et des devoirs à la maison. Par exemple, hein. Il y a des gens qui restent convaincus qu'il faut donner du travail, d'autres qui restent convaincus que tout doit se passer devant les yeux de l'enseignant, d'autres pensent que la meilleure solution, c'est de donner à certains et pas à d'autres. D'autres pensent que c'est une manière là de stigmatiser des élèves. Bon, alors évidemment, au bout d'un certain temps, il y a un travail où on trouve, où on fait parler le métier. Mais bon, c'est pas non plus ce que je disais tout à l'heure. C'est pas non plus le but, c'est qu'il n'y ait pas un consensus et qu'à la fin de la journée, tout le monde sorte d'accord sur une manière de faire. Hein, c'est vraiment essayer de. Je crois pour Guillemette, là, l'idée, c'est bien de constater que les difficultés qu'elle rencontre dans la prise en main de la classe et dans la mise en activité de ses élèves n'est pas une difficulté qui lui est propre et personnelle, mais bien une difficulté qui questionne le métier et qui est au centre même des préoccupations de métier. C'est-à-dire, bon, comment on gère l'hétérogénéité, comment on se met d'accord sur cette question-là, ben, c'est une question qui n'est pas réglée une fois pour toutes. Hein, et on sait bien que sur la question du travail personnel, en plus, c'est loin d'être réglé. Mais voilà.
À la fois, c'est pas fermé, ça reste ouvert.
Absolument.
Et en même temps, on commence à élargir le champ.
Oui. Oui.
Dans lesquels chacun peut puiser. Quoi.
Oui. Oui.
C'est pas des gestes à faire, c'est des gestes possibles.
Oui. Donc là, c'est un peu, c'est sous cette appellation finalement de règles du métier, hein, c'est-à-dire des règles interpersonnelles dans l'échange, un peu comme ce matin, hein, et comment ces règles interpersonnelles aussi viennent, je dirais, nourrir les règles transpersonnelles qui sont plutôt de l'ordre du genre et là du métier, hein, et qui vont, d'une certaine manière, permettre à Guillemette donc de reprendre un peu la main sur sa classe et de convertir. Moi, je pense que dans la dimension de ressources intermédiaires, je disais, il y a ce côté provisoire parce que on le sait là de par ses travaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, comme tu dis, une crispation des débutants sur des gestes, comme s'ils avaient besoin de les reproduire à plusieurs reprises, hein, pour se dire que c'était pas finalement les gestes les plus efficaces. Cette crispation sur les gestes, là, comme dit le collègue, c'est en ce sens que c'est provisoire. Parce que on le voit là chez Guillemette, mais on en a parlé, ce sont plutôt des règles de technique de gestion de la classe que des questions qui vont permettre de mettre véritablement les élèves au travail. C'est en ce sens qu'elles sont provisoires. Donc là, il y a une conversion, hein, de préoccupation initiale. Voilà, de préoccupations initiales en des occupations plus efficaces. Alors, ce qu'on a essayé de regarder aussi, c'est le retour en classe qui pourrait être aussi le signe de ces apprentissages. Donc, au moment où on a travaillé, on a montré au collectif, on a montré un film notamment sur la manière de prendre une classe d'une enseignante en maternelle. Je crois que c'était... Non, c'est pas Vera. Enfin bon, voilà, c'est une collègue et on a montré, Fred a montré comment cette enseignante travaillait. Et là, il y a eu aussi, alors intéressant, hein, de voir comment des profs de collège de la 6e à la 3e, finalement, entrent dans la découverte de ce qui se fait dans une classe de maternelle. Et là aussi, ça a occupé une bonne partie de la journée sur ce travail-là. Bien. Et à l'issue de quoi ? Donc, moi, je sélectionne simplement ce morceau. À l'issue de cette présentation, Guillemette dit, si je comprends bien, mettre les élèves en groupe, c'est organiser des groupes où chacun a une fonction bien définie. Alors ça paraît très naïf, mais on voit qu'elle elle le réfléchit à haute voix. Hein. Vu comme ça, ça permettrait de gérer l'hétérogénéité. Et donc à la fin de la journée, elle vient nous voir et elle dit « Je voudrais vraiment essayer de mettre ça au point dans ma classe et j'aimerais que tu viennes me filmer, j'aimerais voir ce que ça donne et regarder là où ça coince, combien de temps je reste sur des trucs, ce qui s'est passé à la fin de l'heure, est-ce qu'on a avancé, est-ce que les élèves ont appris des trucs. J'aimerais qu'on trouve un moyen, un genre d'outil qui me permettrait de voir comment je m'organise avec le cours pour mieux répondre à la demande des élèves, ceux qui en ont vraiment besoin. » Donc, ce provisoire, ce côté provisoire, c'est... Alors, ça a toujours un côté un peu illusoire parce que je vous le donne là en moins de 20 minutes, mais on a commencé à travailler avec Guillemette en 2004, on est en 2007, on travaille toujours avec elle. Donc, vous voyez, cette idée d'après-coup, c'est aussi un après-coup qui quand même s'installe dans la durée, hein, et dans le temps. La conversion du pouvoir de réagir en pouvoir d'agir et en développement potentiel, elle est aussi quelque chose qui s'installe dans le temps. Bon, il faut prendre mesure de ça. Donc là, au début, eh bien, il y a ces préoccupations un peu provisoires, mais récurrentes, que dénonce, enfin, en fait, que met en œuvre Fred, dans l'idée qu'il y a justement... Enfin bon, que tu montres, dénoncer dans le bon sens du terme, même pas. Bon. Et où effectivement la mise au travail des élèves est subordonnée à cette question de l'ordre, avec des préoccupations qui progressivement vont s'acheminer vers la mise en activité des élèves. Hein. Alors. Bon, on a filmé des situations où, par exemple, elle va assumer l'année d'après le fait de mettre, par exemple, les élèves, elle les a 2 heures consécutives et elle va accepter de les mettre de son propre chef, hein, 1 heure au travail en classe. Et donc là, elle a fait des choix, hein, elle a décidé dans ses moyens d'agir justement que face à la non lecture des textes historiques des élèves de troisième, elle décide que cette lecture, notamment un texte sur la soie, sera fait en classe. Après, avec un système de questions et de réponses. Bon, c'est une manière de faire et de travailler, de mettre les élèves au travail, qui a là suscité en revanche beaucoup de controverses, voire même beaucoup de critiques, à la fois de la part de ses collègues, des gens qui étaient en formation à qui on montrait cette manière d'enseigner et d'enseigner l'histoire en particulier, mais ça a aussi créé, je dirais, beaucoup de critiques de la part des formateurs, voire même de chercheurs. Donc, bon, ce travail-là, on continue, on le poursuit, et notamment, dans l'outil qu'elle nous a demandé de créer, on a créé un synopsis. Alors, en gros, il ressemble à ça, hein. Je vous le montre parce que c'est aussi un autre outil qui nous a permis de revenir sur les traces, pas uniquement des traces filmiques, mais aussi des traces écrites. Donc, un outil qui, bon, est très simple, là, hein. Il prend la durée, les tâches. Voilà. Je vais y revenir, hein. Voilà. Donc, il y a 3 tableaux qui prennent les 55 minutes de la leçon. Bon, suite à la demande qu'elle avait faite. Ces traces-là, on les a reconstituées après coup. Et l'une après l'autre, c'est-à-dire dans ce qu'elle m'avait dit et demandé, dans ce que j'ai compris qu'elle me demandait, que j'ai traduit, et au fur et à mesure dans l'interaction. Donc, et par exemple là, si on reprend la première leçon, on voit par exemple qu'il lui faut 17 minutes pour faire entrer les élèves, et à la 18e minute, elle demande aux élèves de s'asseoir et d'ouvrir le cahier de géographie. Bien. De la 18e à 22 minutes, elle fait un rappel. Donc, mais ce qui apparaît au fur et à mesure et que je mets en bleu, c'est l'espèce de motricité, hein, de la séance et dont on va se rendre compte après coup, hein, l'une et l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, il y a ici un modèle qui est le suivant, hein, qui est toujours le même, qui est récurrent du début de la séance jusqu'à la fin. Elle pose une question aux élèves. Quelles sont les zones faiblement peuplées en France ? Elle pose une question. Altercation entre les élèves, c'est-à-dire tiens-toi tranquille, sors-toi de là, sors ton cahier, ne fais pas ceci, retourne-toi. Et à ce moment-là, elle donne la réponse à la question qu'elle a elle-même posée. Et on recommence. Et il y a vraiment cette espèce de continuum. Hein, c'est un scénario type. Voilà, un scénario type sur lequel, bien entendu, on reviendra et sur lequel on travaille aujourd'hui encore. Hein. Bon, voilà, ça c'est par exemple un outil de travail qu'on a construit ensemble. Alors, cet outil-là, par exemple, on va le ramener au collectif Alors, pas tout à fait le collectif qui était initialement celui des collègues du collège, mais par exemple, dans le groupe dans lequel elle travaille aujourd'hui, qui est un groupe d'appui pédagogique hein, sur les avec, au niveau des profs référents, et où elle m'a demandé de mettre cet outil au travail, justement pour regarder comment, regarder par exemple sur cette question-là hein, de la sonnerie, qui a été l'objet de beaucoup de temps de travail, par exemple sur le collège, hein, où on se rendait compte, par exemple, que la cloche sonnait et que systématiquement, la quinzaine d'enseignants avec laquelle nous avons travaillé, le scénario, là, était quasiment récurrent. La cloche sonne, le professeur continue de parler et fait noter les devoirs. Bien, ça, c'est, je dirais, l'enveloppe. Quand on regarde en précision ce qui se passe là-dedans, on se rend compte que pour un grand nombre d'enseignants, mais surtout les néo-titulaires, les titulaires, ce qui se dit à ce moment-là, c'est ce que les didacticiens ont appelé la phase d'institutionnalisation. Hein. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que l'enseignant, quand la cloche a sonné, qui s'autorise à dire « Bon, finalement, tout ce qu'on a fait là, c'était du contingent, hein, l'essentiel, c'est ça. Voyez tout ce que vous avez fait, la lecture de cartes, etc. etc. » En fait, regardez, hein, ici, on garde l'idée générale. Hein. Le reste, on peut oublier. Une seule info à retenir, c'est l'Afrique qui a l'augmentation la plus importante. Tout le reste, c'est pas important. Et donc, on a beaucoup travaillé avec Guillemette sur cette question-là, et son idée, c'est de dire, mais je n'assume pas ça, je n'assume pas le savoir, elle est agrégée d'histoire, hein. On est en sixième, je n'assume pas ça, et c'est, en le disant au moment où la cloche a sonné, c'est presque une manière de le dire sans trop le dire, de le dire doucement, il y a du bruit, et comme si elle ne l'assumait pas. Alors ça, bon, là, il y a aussi cette dimension disciplinaire. Mais en revanche, ce sur quoi je veux revenir avec vous, c'est que autant vous voyez la première autoconfrontation qui est menée avec Fred est, je dirais, presque exclusivement centrée sur des questions de prise en main des élèves. Je crois que je marque bout, il faut que je les mette en silence. Est-ce que je dois demander, exiger le silence absolu? Oui, non, un peu, pas beaucoup. Voilà, essentiellement là-dessus. Et au fur et à mesure que le temps passe sur cette dimension provisoire, on voit ici que, du coup, le travail des élèves devient aussi un moyen pour elles d'apprendre le métier. Mais là, ces migrations dont ils parlent, progressivement, sont en train de se convertir. Et c'est ce que je vous ai mis ici. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu avais déjà évoqué, c'est-à-dire qu'ici, les élèves ne sont plus simplement un moyen d'apprendre le métier, mais ils deviennent l'objet même de l'activité de l'enseignante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le pouvoir de réagir est un pouvoir de réagir qui se fait de plus en plus souvent sur la dimension disciplinaire et didactique, qui est au cela. Comment elle arrive à articuler finalement des questions de maîtrise de la classe, de fonctionnement de la classe et des questions de disciplinaire. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas, on peut... Voilà. On peut continuer sur cette question du dispositif, hein, où là il y a vraiment cette idée d'alternance entre des expériences de formation et des expériences de classe, et où il y a la sollicitation de divers contextes qui contribuent à la formation et donc à donner corps à ce dispositif de formation. Ceci dit, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure en fin de matinée, c'est que ce dispositif est de notre point de vue très pertinent pour avancer sur ces questions-là. Par ailleurs, il est extrêmement lourd en formation à mettre en œuvre. Il y a des moyens qui sont plus légers, notamment l'instruction au sosie qui sont plus légers, parce que celui-ci, je dirais, il combine deux difficultés. La première, c'est le temps. Il faut constituer la demande, il faut la reformuler, il faut entrer dans l'établissement, il faut y passer un certain temps. Hein. L'idée de choix, c'est pas une simple idée, c'est-à-dire se mêler à la vie des gens, ça prend du temps. Bon, ensuite, il faut entrer dans la classe, il faut avoir toutes les autorisations de filmer. Ensuite, il faut conduire les autoconfrontations, il faut trouver le temps de le faire. Puis toute la difficulté liée à l'autoconfrontation, c'est-à-dire comment on conduit une autoconfrontation. Bon, ce sont des éléments, je pense, qui mettent du temps là aussi pour s'emparer de ça. Bon, après, notre idée, par exemple, avec les professeurs référents avec lesquels on travaille, et l'idée étant de les former aussi à ces outils-là, c'est de dire que, par exemple, ils peuvent travailler sur des extraits que nous avons nous-mêmes construits. Hein. D'où l'idée de produire de la ressource à partir des films, des vidéos. Voilà. Mais ça, c'est en discussion. En revanche, comment ça se passe? Bon, jusqu'à présent, c'est toujours très délicat de... Quand un formateur dit bon, est-ce que tu me donnes, est-ce que tu me donnes ton film? Voilà, là par exemple, j'ai mis sur le site le passage d'autoconfrontation parce que Frédéric et Guillemette sont entièrement d'accord à cela. En revanche, toute la partie où il y a les élèves et où il y a d'autres scènes, c'est extrêmement difficile. Oui, tu veux. Est-ce qu'on a des traces des effets de cette mise en œuvre et de mise en route de ce dispositif sur le fonctionnement de l'établissement? Ouais. Je dirais d'une certaine manière, quand les traces, c'est par exemple les demandes qui se multiplient à la fois du point de vue des établissements et du point de vue académique, où par exemple le rectorat ou l'académie nous demande d'intervenir de plus en plus souvent et avec des collègues, auprès des collègues sur les établissements. Donc je crois qu'il y a une connaissance maintenant, un certain terrain de confiance qui s'est créé autour de ça et où les gens ont vraiment le sentiment que, bien que coûteux, c'est aussi un instrument qui va permettre d'avancer sur la question... sur la question de l'enseignement, et notamment en milieu difficile, puisque bon, globalement, c'est que là qu'on intervient. Mais c'est tout à fait subjectif, je dirais. Bon, par ailleurs, il y a eu des travaux, par exemple, sur les principaux d'établissement. Bon. Et qui montrent aussi que ce travail-là est aussi un moyen de remobiliser des équipes autour des questions. Et voilà, ce sont des effets, mais bon, on n'a pas véritablement fait de travail systématique, je dirais, sur cette question-là. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que là, il y a des règles qui étaient des règles personnelles de Guillemette. Je marque bouté sur la volonté de mettre les élèves au silence et un silence absolu. Là, il y a des règles qu'elle s'est construite, même dans la vidéo que je vous ai montrée. Ce passage qu'elle, vous avez vu là, ici, regarde là, par exemple là, elle donne un exercice. Travail individuel, le professeur passe dans les rangs. C'est la quasi-totalité de son temps. Soit elle les met en ordre, soit ensuite elle les met en autre minute. Elle va passer d'un élève après un autre. Parce que là, les règles personnelles qu'elle se donne et qu'elle a, en tous les cas, qui organise son activité, c'est justement cette espèce de doxa un peu mal digérée où elle est convaincue là que pour aider les élèves à travailler et pour pallier les difficultés, elle ne peut avoir qu'une relation individuelle avec chacun des élèves de la classe sur l'exercice qu'elle leur donne. Bon, résultat, c'est bien sûr la catastrophe. Vous avez vu un peu, chacun fait ce qu'il veut. Bon, il travaille pas sur les questions qu'elle a données. Évidemment, quand elle arrive à la fin de l'élève, l'extrait que je vous montre, le premier par lequel elle a commencé lève le doigt et commence à lui poser des questions. Or, comme elle ne répond pas, il s'énerve, et c'est là qu'elle le dit, mais attends, vous êtes 25, je peux pas me dédoubler. Mais évidemment, au moment où elle est passée, il n'avait pas de questions à poser. Donc, je sais plus pourquoi je vous raconte ça. Oui. Donc là, elle a des règles qu'elle s'est données pour exercer son métier. Au moment où elle est dans le collectif et où on a travaillé sur ces passages-là, je dirais que ces règles-là, elles s'échangent un peu comme ce matin, ce qu'on appelle des règles interpersonnelles. Bon, et ces règles interpersonnelles, sans pour autant faire consensus, vont venir ici grossir non pas quelque chose qui est de l'ordre du style de tel ou tel professeur, mais quelque chose qui traverse de manière plus générale, de manière plus transpersonnelle, les règles du métier enseignant. Et donc quelque chose... Oui. 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 Alors, Fred parle de valider. Moi, je crois aussi que ce qui est important dans ce retour au collectif, c'est justement une validation. Alors, quelle validation? Mais une validation locale. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Une validation locale. Locale dans cet établissement. Et là, elle est d'autant plus locale, je dirais, que par exemple, il y a le principal. Le principal qui dit, lui, ben oui, moi je suis d'accord finalement pour que certains élèves de la classe n'aient jamais de travail à faire à la maison, du moins pendant un temps. Il y a des validations locales sur des points qui ont été remis en chantier.
Collectif qui
transpersonnel. Alors sur la formation par exemple des PE2, moi j'ai essayé de mettre en œuvre ce dispositif. Donc je vais les voir en début d'année. Ils ont un module maternel auquel je ne participe pas. Donc je vais les voir en début. Bon, les choses sont un peu répandues. Du coup, j'ai pas besoin de beaucoup draguer pour. Bon, il y a toujours un ou deux, voire trois PE qui acceptent de se soumettre. Hein, c'est bien les termes que j'emploie hein, à ce dispositif. Donc je vais les voir par exemple une journée durant laquelle je filme la quasi-totalité de la journée. Mais bon, y compris dans ce que dit Fred à propos de l'instruction en sosie. Hein. Le matin ils arrivent dans la cour, les élèves qui se mettent en rang, etc. Ensuite on fait avec ce collègue-là une autoconfrontation SEM sur des moments qu'on décide de regarder. On ne peut pas bien entendu regarder 8 heures de film. Donc sur des moments qu'on a décidé l'un et l'autre comme étant des moments intéressants pour l'un et l'autre. Bien, je fais ça avec un autre collègue. Et lorsqu'on revient ensuite dans le séminaire de PE2, on fait les autoconfrontations croisées devant le collectif qui est constitué par le collectif des PE2. La consigne pendant les 3 heures, c'est on travaille pendant 1h30, 45 minutes à peu près sur le film de l'un, 45 minutes sur le film de l'autre. Et le groupe se tait, prend des notes et se tait. Et pendant l'heure et demie restante, là, il y a un travail où on met en dialogue les événements qui ont été pointés. Et je dirais que ces 8 heures fois 2 ou fois 3 de film vont alimenter la formation pendant à peu près les 8 ou 9 séances où on prend comme cela des moments. Alors, au départ, il semble par exemple que c'est la question de l'autorité, de manière générale. Et au fur et à mesure, on se centre sur des moments, par exemple l'entrée en classe, mais aussi maintenant la sortie. Comment on fait sortir les élèves, hein, sur cette question d'institutionnalisation. Bon, mais sur la question d'institutionnalisation, par exemple l'année dernière, on a fini le séminaire sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de ma responsabilité en tant qu'enseignant ? Est-ce qu'en tant qu'enseignant, je dois dire à un moment donné aux élèves, voyez, c'est ça qui est important. Dans le savoir que l'on vient de travailler, ça c'était contingent, ça c'est important. Donc là aussi, je dirais que, bon, je filme ces séances-là, mais j'en ai rien fait pour l'instant, hein, mais là on a aussi du matériau qui nous permettrait de regarder comment en début de séance, les questions qui émergent de ce travail sont des questions qui sont quasiment exclusivement articulées autour de la prise en main de la classe et des questions d'autorité, comment je peux asseoir mon autorité, comment je peux diminuer le bruit qu'il y a dans ma classe, et au fur et à mesure que les séances passent, bon, par l'ensemble de la multiplication des contextes hein, qui se rencontrent, on voit que les questions portent sur autre chose. Bon, moi, c'est comme ça que je traduis cette espèce de migration de préoccupations initiales vers des préoccupations qui sont davantage tournées vers le travail des élèves et la possibilité pour l'enseignant d'être aussi plus à l'aise hein, et d'avoir un usage de soi, je dirais, qui soit tenable. Voilà. Bon. C'est aussi un moyen d'utiliser ce dispositif. Oui, puis des objets, je dirais, qui ne sont pas souvent mis en formation. Par exemple, dans le film de ce matin, j'ai relevé trois expressions hein, pour chacun d'entre eux. Elodie est étonnée, parce qu'elle est étonnée de s'entendre et de se voir plutôt crier. Bon. Soufiane parle de la fatigue. Je me suis couchée à 6h30, je suis arrivée, je me suis couchée à 6h30, j'étais crevée. La solitude de Laure. Hein. Je suis là dans la cour, finalement, est-ce que j'admets ma nullité ? Est-ce que j'ose lui demander de l'aide ? Voilà, c'est quatre objets, là, trois ou quatre objets. Et puis ensuite, cette maîtresse-là, celle qui ne crie pas, elle est là, elle veille. Voilà. Sur, par exemple, des gestes et des postures professionnelles hein, sur lesquelles on peut aussi passer du temps et qui, finalement, dans des dispositifs de formation plus traditionnels, ne sont jamais évoqués. La question de la fatigue, c'est une question qui peut être périphérique, mais qui n'est jamais travaillée en termes d'efficacité aussi. C'est-à-dire la manière dont je viens questionner le métier sur la question de l'efficacité au point de vue de l'organisation des conditions de travail des élèves, mais aussi au niveau de ma propre fatigue. Donc là, il y a des moyens par le dispositif, justement, de face à cet étonnement, de pouvoir dire des choses qui sont pour le coup des sous-entendus, mais des implicites, voire des interdits du métier dont on ne parle pas. La fatigue de l'enseignant, elle est partout présente. Et finalement, dans le dispositif de formation, on n'en fait pas grand-chose. Bon, c'est une manière de prendre d'autres objets aussi. Bah, les moments de réaction, c'est aussi ces moments qui sont faits par l'étonnement. Hein, qui sont faits par l'étonnement. C'est-à-dire, c'est dans l'après-coup. Là. Mais là, je me rends compte que je me rends compte que je ne pouvais pas faire ça comme ça. Alors, effectivement, il y a un pouvoir d'agir potentiel. Hein. On suppose que je comprends que je ne devrais pas le faire comme ça. On suppose que là, il y a un pouvoir d'agir potentiel où elle va pouvoir faire autrement. Mais je crois que dans un premier temps, ce qui est important, c'est aussi cette possibilité qu'elle a de pouvoir réagir là-dessus. Et non pas de manière à dire bon ben tiens par exemple est-ce que ton cours est correctement organisé, est-ce que c'est pertinent ou tout simplement en reprenant les exemples qui étaient donnés tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de faire expliciter une idée qu'aurait le chercheur ou le formateur. Hein? Je crois que ce pouvoir de réagir, il est aussi important parce que il vient de l'opérateur, hein, comme disent les ergonomes, c'est-à-dire au sens où c'est lui qui opère des choix. Et ça me paraît important parce que c'est pas le chercheur ou le formateur qui essaye de valider ou d'invalider une bonne pratique ou une mauvaise pratique, mais c'est celui qui fait, qui a son expérience, qui parle de son expérience. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais du coup, ce pouvoir de réagir, il est le prémisse du pouvoir d'agir, mais peut-être pas forcément. En tous les cas, pas dans l'immédiateté, peut-être. Et le penser dans une dynamique, parce que semble-t-il que ce dispositif, il doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est important de retourner en classe et de voir ce qu'elle fait de ce qu'elle a dit. Ça me paraît très important parce que là, par exemple, hein, il y a l'année d'après, dans la classe de Guillemette, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire cette capacité à assumer pendant une heure la lecture des élèves, si on regardait ce film, on verrait que là, à aucun moment, pour le coup, elle n'est tournée. Hein, vous rappelez là, le synopsis avec question, altercation, réponse donnée par elle-même. Là, non seulement elle se tait, il y a le silence. Mais du coup, le sien de silence, c'est elle qui se tait. Et par là même, on a des élèves qui lisent. Alors bon, d'ailleurs, sur un document qui a apporté beaucoup de critiques, hein, elle donne une feuille à trois écrit, je crois, en time 10. Vous voyez la chose. Hein. Et les élèves lisent. De fait, pendant une heure, ils vont lire et répondre. Donc ensuite, elle va créer ce travail-là. Donc c'est important d'aller, je crois, pousser le dispositif à aller regarder et à prendre les traces de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a dit, de manière ensuite à retravailler avec elle sur ces questions. Et là, on a des traces de ces apprentissages, et cette fois-ci, non plus du pouvoir d'agir potentiel, mais d'apprentissage nouveau, où elle va jusqu'à créer des outils et des instruments de son activité. Oui, bien sûr. Ça a produit des transformations, et des transformations efficaces. Bon, ça, je crois qu'on peut le dire aussi, hein. Des transformations efficaces, elle a une classe au travail, elle n'est pas bordélisée. Bon, les élèves ont travaillé de fait pendant deux heures sur la question juive et des camps de concentration. Oui, c'est sûr. De ce point de vue-là, il y a une vraie transformation et une transformation efficace. Et au sortir de ce cours, à chaud comme ça, eh bien, elle est contente. Elle dit, c'est un cours qui a bien marché, je suis contente. Et parallèlement à ça, c'est toutes ces questions qu'on aborde là, je crois que ça fait aussi, du point de vue du formateur, ça fait bouger aussi notre système d'évaluation. Il est évident que, là par exemple, je travaille avec un collègue, qui fait une entrée en classe extrêmement difficile. Finalement, lui aussi, au bout de 47 ou 48 minutes, il va finalement... heureusement que je sais qu'il est professeur d'histoire, parce que jusque-là, il a fait des tas de choses qui ne relèvent absolument pas de l'histoire. Absolument pas. finalement, à la 48e minute, il va pouvoir dire qu'il travaille sur le pape et les croisades. On est en 2005, avril 2005, et là, il y a des élèves qui disent « Oh, monsieur, monsieur, il est mort, Jean-Paul II, il est mort. » Et oui, je les ai, je vais vous les montrer. Mais pas quand il dit ça, mais vous allez voir l'entrée en classe. Et donc, là, il y a une autoconfrontation qui avait été faite à l'époque par Fred. Et le collègue a accepté, 2 ans après, de retravailler. Donc, en fait, il était 3. Et j'ai conduit une autoconfrontation sur cette séance-là qui avait été filmée quand il était T1. Et là, c'est intéressant du point de vue de la recherche de regarder ce qu'il a dit au moment de la première autoconf et ce qu'il dit maintenant, quand il était 3, où on retrouve ses problèmes d'étonnement, de fatigue. Et là, je lui dis, mais tu n'as pas prévu pour, comment se fait-il que tu ne fais rien de ces remarques des élèves? Et il me dit, mais je me rends compte que je n'en fais rien parce que je ne pouvais rien dire. Mais je lui dis, mais comment ça, tu peux rien dire? Enfin, un prof d'histoire qui peut rien dire, il fait une leçon sur le pape et les croisades et il peut rien dire. Et il me dit, je n'ai pas prévu ça. Je n'ai pas prévu. Hein. Professeur d'histoire, il traite de la question du pape. Le pape vient de mourir. Il n'a pas prévu qu'il y ait au moins un élève qui lui dise que Jean-Paul II vient de mourir. Et à ce moment-là, dans son travail, il dit, mais j'ai oublié. Je suis tellement fatiguée et ma préoccupation est tellement centrée sur arriver en classe avec quelque chose. Surtout ne jamais arriver en classe sans rien. Je suis tellement centrée là-dessus, me sens tellement débordée et j'ai tellement le sentiment que mon travail consiste à gérer de l'inattendu. Je ne m'attends jamais à rien, je ne peux jamais rien prévoir, jamais rien anticiper. Et là, en me regardant, dit, je me rends compte que j'avais tout oublié, tout ce que j'ai appris à l'UFM, non. Tout ce que j'avais appris à la fac. Bon. Alors, moi, cet exemple, pour moi, il est vraiment, je crois, très, très fort, parce que ça vient nourrir aussi la question de la dimension provisoire. Si on peut admettre cette question d'un genre débutant, et du coup de ces ressources intermédiaires et provisoires, ça permet, je crois aussi, d'avoir un autre rapport au métier, un autre rapport au conseil, un autre rapport à l'évaluation. Il me semble que lorsqu'on vient soit en conseil, soit en évaluation auprès de jeunes collègues, il me semble que les rapports qui vont se faire avec le néo-titulaire sont de nature différente s'il y a l'idée de ce côté, de cette dimension provisoire, plutôt qu'une dimension plus prescriptive ou normative, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Très souvent, on entend quand même les stagiaires, les PCL2 ou les PE2, qui vous disent, mais finalement, on se demande parfois si les gens qui viennent nous visiter, ils ont idée de ce qu'il faut faire en classe. Alors, parfois, je fais ce que je sais que l'autre attend. Enfin, je ne sais pas si tu as montré cet extrait où on a le collègue qui, finalement, est à l'affût de ce qu'il croit que le formateur vient regarder et qu'il attend de lui. Donc, il est moins sûr de dire son expérience et ses difficultés que d'essayer de comprendre ce que le formateur attend et dire ça. Bon, c'est juste un petit extrait sur l'entrée. Bon, voilà, ça dure Donc c'est cette séance-là dont je vous parlais. Donc ça dure 48 ou 49 minutes. Hein. Et pendant tout ce temps, il va faire beaucoup de choses. Donc il va faire beaucoup de choses. Il va commencer par donc sortir ses affaires de son cartable et pour préparer ses cours. Et donc là, pendant ce temps, on se demande ce que vont faire les élèves, s'il n'y en a pas un qui va étrangler l'autre. Bon, ensuite, il demande aux élèves de sortir leurs affaires. Et donc là, il y a un premier travail de vérification. Donc il sort son carnet et il va noter systématiquement les élèves qui n'ont pas leur matériel, un à un. Bon. Et tous les élèves qui n'ont pas le livre, il va au fond de la classe, il ouvre l'armoire, il prend un livre, il revient, il donne à l'élève. Et ainsi de suite. Et ça s'éternise pendant un temps fou. Ensuite, il fait l'appel. Un à un aussi, avec des élèves qui répondent n'importe quoi, qui interpellent les noms, bon, etc. Ensuite, quand tout cela est passé, l'appel, les livres, il dit « Je vous avais donné du travail, on va vérifier le travail. » Et il recommence le travail de contrôle. C'est-à-dire qu'il repasse de nouveau dans les rangs et il vérifie que les élèves ont fait leur travail. Avec système de punition, c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas fait le travail, je note ton nom, ça fait deux fois, ça fait trois fois, toi tu avais été puni, etc. Bon, voilà. Et donc quand on reviendra sur l'autoconf que je conduirai avec lui, quand je reviendrai sur ces questions avec lui, bon, je ne peux pas entrer parce que c'est une leçon très difficile, parce que travailler cette question des croisades, finalement, c'est très difficile. Et puis, y a des termes que je ne sais pas employer. Je vais commettre de graves erreurs. Par exemple, quand il commence donc sa leçon, il dit... le pape a appelé à partir en croisade contre les Arabes. Et là, bon, ça va déclencher un tollé général où les élèves vont certainement se mettre debout en disant « Monsieur, pourquoi les Arabes ? Pourquoi on se bat contre les Arabes ?» Et il dit qu'en fait, il ne voulait pas entrer dans cette leçon parce qu'il avait peur de cela. Sur la deuxième autoconf, il dit « Mais je comprends pas comment, à un moment donné, je pouvais pas parler de musulmans. En plus, je commets des erreurs historiques et... j'ai peur, quoi, d'y aller, j'ai peur. » Alors, c'est assez intéressant parce que l'autoconf qu'il avait faite, je sais pas, avec Fred ou Daniel, à un moment donné, un des deux, je sais pas qui le fait, dit « Pourquoi tu laisses la porte ouverte ?» Et il dit « Parce que j'ai rien à cacher. » Et lui-même, à la deuxième autoconf, dira « D'ailleurs, tu vois, cette porte, elle est ouverte et je la laisse ouverte parce que, en fait, je suis mort de trouille. » Bon. Donc là, il y a vraiment aussi toute cette dimension. Bon, on le dit là en plaisantant, mais enfin, bon, c'est pas du tout marrant. Hein. Il y a vraiment toute cette dimension de l'enseignant qui est vraiment dans un état de souffrance parce que il a le sentiment de non maîtriser sa classe, de non maîtriser les contenus de savoir et d'être donc, il le dira, dans l'arène en permanence. Donc, pour le coup, là, il y a une situation. Je sais pas qui est-ce qui a dit ça, SOS pédagogique. Voilà, pour le coup, il y a vraiment un SOS.
Oui, mais d'ailleurs, dans cet établissement, il y avait eu un problème lorsqu'on travaillait avec les néo-titulaires. Par exemple, une jeune collègue rapportait le fait suivant. Elle était en classe et elle était près de la fenêtre. Et donc, elle voit deux élèves dans la cour qui auraient dû être avec elle au moment où elle était en classe, qui auraient dû être présents. Et donc, elle s'est emportée très fort, puisqu'elle dit « Les élèves sont dans l'établissement scolaire. » Ça veut donc dire que la vie scolaire a validé leur présence, mais qu'à la fois, ils valident leur absence du cours. Donc, il avait émergé de cette remarque-là, en fait, un problème de fond extrêmement important dans cet établissement, qui était le problème professeur, notamment T1, vie scolaire. Et où nous avait demandé de manière très très explicite, donc à Fred et à moi, de faire un travail auprès de la vie scolaire et notamment auprès des CPE, bon, qu'on avait plus ou moins rencontré de manière informelle. Et quand on tente de travailler un petit peu avec eux, évidemment, la manière dont ils décrivent la situation est tout à fait inverse. Et ils disent, mais il y en a assez de ces profs qui déboulent dans notre bureau, qui disent, débrouillez-vous avec cet élève, je ne peux plus rien en faire. Mais ils nous prennent pour des gardes-chiourdes et on voudrait quand même leur faire remarquer que nous aussi, on a une CAPES et qu'on est le même niveau qu'eux.
Donc il y avait, par exemple, de manière sous-jacente dans cet établissement, un problème très fort, très violent, très douloureux de reconnaissance et de légitimité parmi les différents personnels de l'éducation. Bon. Alors, et ça, on s'est rendu compte que finalement, avec, par ailleurs, puisqu'on avait aussi conduit avec un étudiant un travail sur avec le principal, et là, on se rendait compte aussi qu'au niveau du principal, le principal était une ancienne CPE, et elle n'arrivait pas à trancher entre la posture du CPE et la posture. Et donc, les collègues nous disaient, mais en fait, elle est toujours en train de prendre le parti des CPE contre nous, alors que très souvent, ils ont tort. Et donc, on a passé des heures entières, finalement, à discuter de comment on pouvait légitimer ça. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, au moment de novembre, quand il y a eu les émeutes, bon, qui ont été relativement peu importantes à Marseille, en fait, il y a un collègue qui a eu un problème sérieux avec un élève dans cet établissement, hein, qui a quand même assez mal fini, puisque le collègue a dû partir pour éviter un certain nombre de menaces. Et là, ce que disait le groupe restant, c'est qu'il n'avait pas réussi à endiguer le flot. Et du coup, tu parles de la rue. Là, pour le coup, il reconnaissait que les caïds de la cité, qui jusque-là s'arrêtaient aux portes de l'établissement, et lorsqu'ils rentraient, ils étaient des élèves. À ce moment-là, il y a eu cette perte-là de pouvoir. Et les caïds de la cité rentraient dans l'établissement, non plus en tant qu'élèves, mais en tant que caïds. Et on voit, par exemple, dans les couloirs, eh bien, de la non-surveillance, des élèves, en fait, ceci dit, l'architecte qui a construit l'établissement, à mon avis, où il n'a jamais été élève, où il n'a jamais passé deux heures dans un établissement scolaire, il y a des recoins complètement obscurs, qui puent d'ailleurs la clope, parce que, évidemment, c'est très facile d'aller se cacher et d'aller fumer dans les établissements, qui sont des endroits de non-lieu et obscurs, non surveillés. Et on se demande comment il peut ne pas y avoir plus d'accidents, d'ailleurs, dans ce type d'établissement. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments, en tous les cas, qui étaient très durement vécus par les néo-titulaires, qui avaient le sentiment que tout cela, interagissait et intervenait de manière très forte dans la manière de prendre la classe et de réussir à faire quelque chose et à s'en tirer surtout. Donc.
Moi, je trouve que c'est super important ce que tu dis, parce que c'est justement, encore une fois, l'opposition entre qu'est-ce qui est promis et qu'est-ce qui est antérieur. Est-ce qu'effectivement, il faut poser un cadre pour pouvoir enseigner correctement? Est-ce que finalement, il vaudrait mieux donner une formation disciplinaire plus solide au PE ou au T1 pour que justement, ils tiennent mieux la classe? La question, elle est vraiment au cœur des questions de formation. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, il me semble que ce qu'on montre là à travers ces films, c'est ça touche les préoccupations des néo-titulaires. Or, il me semble que, en tous les cas, le message, si message il y a à faire passer, c'est que finalement on se rend compte que si on vient sur un terrain qui n'est pas ce terrain-là, mais qui est un terrain quasiment disciplinaire, par exemple, ou didactique, pour le dire autrement, on se rend compte qu'il y a une espèce de cécité chez les néo-titulaires, parce que leur préoccupation n'est pas là. On peut bien leur dire que le cours qu'ils font n'est pas efficace et que la façon de faire la lettre, ça va pas du tout, que la façon de conduire l'oral, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ils sont capables de l'entendre théoriquement, il n'empêche pas moins qu'ils ne peuvent pas le mettre en œuvre parce que c'est pas ça leur souci de préoccupation. Et par exemple, on n'a plus le temps, mais dans l'autoconv là de Guillaume, lui, sa préoccupation essentielle, c'est j'ai trois niveaux, 5e, 4e, 3e, j'ai trois niveaux de cours à préparer et ma préoccupation, c'est surtout arriver en classe avec un cours. Mais, et là, tu as envie de dire, mais le fait que le cours ne soit pas efficace, ça ne te pose pas de problème? Mais c'est ce que tu disais. Ah, non. Lui, sa préoccupation, c'est d'avoir un cours et d'arriver avec quelque chose de prêt. Donc, moi, il me semble que les dispositifs qui sont là sont des dispositifs qui permettent justement aux gens de réagir là-dessus et de transformer progressivement ces préoccupations qui ont, il ne faut pas non plus diaboliser la chose et noircir le problème, qui ont une efficacité malgré tout, parce que la classe fonctionne malgré tout. Mais je crois que c'est l'occasion de réagir face à ça et de convertir et de transformer progressivement ces préoccupations justement en des occupations qui sont plus efficaces à la fois du point de vue du travail des élèves et donc des questions disciplinaires que tu poses et de leur espèce de sérénité au travail.